Donc, ce matin, je suis content d'être avec vous. Ça fait quelques semaines que, avec ma famille, on est parti nous-mêmes dans un petit voyage, une petite épopée, dans les camps, dans le nord du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a fait premièrement le camp Jolibeuf, qui était une semaine, j'ai enseigné au 9-12, et je me suis amusé à faire le voyage du pèlerin avec eux. On a eu un super bon temps. Et ils ont bien sûr eu beaucoup de plaisir, les enfants se sont amusés. Ensuite, on est allé une semaine au camp des Bouleaux, où j'étais conférencier pour le camp Famille Français 1. Et ceux qui étaient là, ben, vous avez déjà entendu les messages. Non, mais on est vraiment content d'être avec vous. Je suis vraiment content d'être de retour. Et pour souligner tous ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, un camp, ben, en avant, la personne qui parle est le fruit de la villa. Depuis que j'ai peut-être 7 ans, je passe la plupart de mes étés à la villa, de 7 ans jusqu'à, donc, 97 à 2000 quelque chose. J'ai passé toutes mes étés là-bas et je peux vous dire, ma première été en tant que staff, et là, c'est pour encourager les gens, c'est la pire été de toute ma vie. Et pour vrai, mais c'est à travers la pire été de toute ma vie que j'ai donné ma vie à Dieu. Pas parce que c'était le fun, même si ça l'était, mais parce que Dieu est venu toucher un cœur rebelle. Et ce matin, on va commencer ensemble une petite épopée qui, un jour, va popper en avant. On va regarder ensemble le livre de l'Ecclésiaste. Et on va commencer, dans les prochaines fois où je vais être en avant pour vous parler, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment l'homme le plus sage que la terre ait porté, qui s'appelle Salomon, qui est le fils de David, qu'on va parler un petit peu plus. Un jour, il est arrivé à une conclusion un peu négative, un peu défaitiste de la vie. Il s'est questionné sur le sens de la vie. Et là, on va regarder la vie de Salomon ce matin en termes d'introduction. Comment est-ce que sa vie, au complet, il a vraiment tout essayé. Il a tout fait. Et il nous donne des conclusions, il tire des conclusions de sa vie. Il nous présente une facette de la vie qui est vraiment, mais intéressante et comme qui va nous apprendre un peu plus sur nous. Et principalement sur le fait que le cœur humain est une machine, une usine à idoles. L'Ecclésiaste passe à travers toutes les facettes de l'idolâtrie qu'on peut avoir dans notre vie. Et vous savez, des fois, moi le premier, il y a des gens qui disent « Ah, si j'avais telle chose ou telle chose, je serais plus heureux. Si j'avais telle chose, je serais plus heureux. » Là, on se marie, puis on se dit « Ah, maintenant que je suis marié, je vais être heureux. » Là, finalement, on est déçu. Puis là, quand je vais avoir un enfant, là, ça, on va être bien, on va pouvoir s'en occuper. Puis là, tu te rends compte que tes enfants sont pécheurs. Et ta vie continue et la vie en général avance et chaque être humain sans Dieu et même avec Dieu se crée lui-même des idoles. Constamment, toute chose dans votre vie, dans ma vie, dans ta vie, est une lutte pour ton adoration. Absolument tout peut rapidement prendre la place de Dieu. Et c'est ce qu'on va aborder ce matin dans le livre de l'Ecclésiaste. Donc, on va regarder ensemble une petite introduction. Oups, j'ai trouvé la manette, elle était cachée. Donc, en termes d'introduction, ici on a, c'est un livre de Salomon. Donc, c'est qui Salomon? J'aimerais prendre le temps avec vous. Pour ceux et celles qui savent le nom Salomon et qui, ça fait longtemps que vous n'avez pas lu, on retrouve son histoire dans le premier livre des Rois, un roi, les chapitres 1 à 11. Salomon, c'est le fils de Bathsheba. Qui est Bathsheba? La femme qui était tellement belle qu'elle a tué 20 000 personnes. C'est la femme avec qui a tenté David, qui prenait son bain sur son toit, que David a dit « Allez me la chercher, je la veux », qui a couché avec elle et qu'elle est tombée enceinte et pour laquelle David a essayé de cacher son péché jusqu'à tuer un de ses meilleurs soldats, jusqu'à tuer Uri. Et Bathsheba, à partir, en fait, toutes les fois où vous allez lire son nom dans la Bible, elle est appelée Bathsheba, la femme d'Uri. Elle n'est jamais appelée la femme de David. C'est toujours la femme d'Uri. Ça vous donne un clin d'œil, comment Dieu respecte et honore le mariage. Et quand on voit Salomon, c'est le fils que David a eu avec Bathsheba, qui est le roi le plus sage qui a eu un impact énorme pour nous du point de vue de la sagesse. On accorde à Salomon 3 livres dans la Bible qui a été l'auteur. Le livre des Proverbes, le livre du Cantique des Cantiques et le livre de l'Ecclésiaste. Donc, selon les historiens, ceux qui s'amusent à dater les livres de la Bible, Salomon aurait écrit le livre Cantique des Cantiques dans sa jeunesse, alors qu'il est tombé en amour avec la Sulamite. Et là, il fait un poème afin de partager, de créer un peu cette idée d'amour. Il travaille à ça. Et ensuite, il aurait écrit les Proverbes. Et ce qu'on a dans le livre des Proverbes, c'est une infime partie. Si vous prenez le temps de tourner dans 1 roi au chapitre 3, et je pensais que je m'étais laissé un petit sticker, mais dans 1 roi 3, et ça nous dit que il a demandé à Dieu, Dieu lui a demandé, « Que veux-tu, Salomon? Qu'est-ce que tu penses qui est le plus important? Demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder. » Et là, Salomon, 1 roi 3, verset 9, il dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Et là, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et là, Dieu lui a dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas une longue vie, des richesses ou la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Et donc, on voit ici toutes ces choses. Dans le fond, Salomon, c'est le gars qui a demandé à Dieu d'être intelligent et que Dieu a dit oui. Et on voit que ce n'est pas une sagesse humaine parce que ça nous dit, un peu plus loin au chapitre 4, qu'il a parlé de plusieurs choses. Donc, on va parler de la renommée, de la grandeur de Salomon. Dieu a donné à Salomon 1 roi 4, versets 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus que Étan, les Archites, mon ami, plus que Éman, Calcol et Darda, les fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, donc ça c'est des proverbes, et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, les oiseaux, les reptiles et les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et donc, on a vraiment cette idée-là de Salomon qui est le roi intelligent. On a dans le livre des Proverbes une infime partie de ce que Salomon a dit. Et là, il a parlé sur des choses extrêmement détaillées. Il était intelligent. Les scientifiques, aujourd'hui, observe la nature, observe les choses encore. Et Salomon, lui, dans son temps, avait devancé tout le monde. Et une chose qui est intéressante, c'est que quand quelqu'un qui connaît Dieu observe ces choses, observe la nature, observe la grandeur et la profondeur de la sagesse de Dieu mise en action dans le monde, on voit vraiment comment notre cœur devrait normalement se tourner vers Dieu. Hein, si vous avez déjà pris le temps de vous asseoir dans une chaloupe sur une petite rivière avec votre canne à pêche et regarder les arbres, écouter le son des petits oiseaux, essayer de voir tous les petits mulots, les castors, tout ce qui se promène, quand vous devenez contemplatif de Dieu et de sa création, ça vous aide à reconnecter à Dieu. Et Salomon, ici, dans sa sagesse ou dans l'application de sa sagesse, nous amène vraiment vers, il a parlé de tout. Et en toute chose, sa sagesse venant de Dieu, le but était de nous aider à focusser, à tourner nos regards vers l'Éternel. Mais là, premièrement, j'aimerais vous dire que ce n'est pas la vie de tout le monde. Il y a des gens qui s'opposent de façon très brutale à l'idée que Salomon a même existé. En fait, les gens savent que Salomon a existé, mais il y a un certain parti qui croit que la Bible a pris une parcelle de l'empire néo-assyrien babylonien qui était réputé pour chercher la sagesse. Il cherchait la sagesse et les jardins de Babylone et toute la grande bibliothèque, toutes ces choses-là d'Alexandrie, et toutes ces espèces de merveilles-là qui ont été faites au niveau de la sagesse et de la connaissance. Et puis là, ils disent, bien, toutes ces choses-là, la Bible, les auteurs juifs qui ont voulu faire ressortir que Salomon était vraiment wise, ils ont pris ces choses-là, puis là, ils les ont attribuées à Salomon. Et comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Bien, en fait, on ne peut pas vraiment. Parce qu'il n'y a aucun, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'y a aucun site archéologique, il n'y a pas de fouille qui peut prouver oui ou non, parce que tout est mélangé dans cette époque-là. OK? Tout est mélangé. C'est-tu écrit en assyrien? C'est pas écrit en grec, c'est écrit en hébreu, en araméen. Et les écrits de Salomon ont été perdus, excepté ce qu'on a dans la parole de Dieu. Et une des idées qui est intéressante, c'est qu'il y a plusieurs points sur Salomon qui sortent, et comme plusieurs livres sortent, comme 500 ans, 1000 ans après, avec le nom de quelqu'un, il y a énormément d'écrits qui sont attribués à Salomon, que la Bible ne nous dit pas qu'ils sont à Salomon. Donc, vous donnez une idée pour, dans la religion musulmane, les musulmans croient que Salomon a existé, ils croient que c'était un grand sage. Mais ils croient aussi que quand la reine est venue voir Salomon, vous savez cette histoire avec la reine, que j'oublie son nom, qui est venue voir Salomon parce qu'elle avait entendu parler de lui. Et là, selon les musulmans, bien, quand Salomon a rencontré la reine, il a converti cette reine-là aux musulmans, à Allah, et ensuite elle est partie pour continuer sa lignée. C'est de là que vient un de leurs grands prophètes. Et donc, eux croient que Salomon existe, mais l'histoire est un peu différente. Et dans tout ça, il y a un point qui ressort beaucoup, c'est que Salomon était quelqu'un qui était lié avec la sagesse. Pour donner un poids à la religion musulmane, ils ont lié Salomon d'une certaine façon, un peu détournée, à leur religion. Et nous ici, quand on prend Salomon, on regarde les choses, et il y a même plusieurs mythes qui sortent sur les écrits de Salomon, comme quoi que il y aurait eu plein de choses à lui, et je vous invite à aller trouver si vous êtes curieux, mais il aurait écrit des livres de guérison exceptionnelle, il y aurait eu un sceau, il aurait parlé avec des anges, il y aurait eu des... C'est vraiment spécial, mais on voit dans la religion catholique plusieurs choses qui sont dans ça. Le sceau de Salomon, l'étoile de David, la capacité qu'on a de connaître certaines choses du monde mystique, du monde des anges, du monde des démons, viennent de Salomon. C'est donc, ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble de regarder. Salomon était un roi d'Israël que Dieu a gardé, à qui Dieu a donné de l'intelligence afin de régner et afin de nous communiquer des vérités. Donc, Salomon, sachez que c'est écrit, il a vraiment tout essayé.
OK? Salomon, on va le voir à travers l'Ecclésiaste. Si vous pensez qu'il y a quelque chose que Salomon n'a pas fait ou qu'il a oublié, sachez, il l'a essayé. Mais aujourd'hui, on l'a juste transformé un petit peu. C'est une des choses qui ressort beaucoup du livre qu'on va regarder ensemble. C'est que tout ce qu'on peut chercher à faire, à vivre et à mettre au centre de notre vie afin de lui donner une valeur et qui va nous propulser de l'avant ou nous rendre heureux, Salomon l'a essayé. Et il y a un principe qui est intéressant ici, qui est dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 2, au verset 3, il dit, l'exemple qui était, c'est « Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. » Et là, tout le monde se dit, « Qu'est-ce que c'est ça? » Vous avez le droit. Parce que c'est ce que je me suis questionné. J'ai dit, « Qui est capable de se conduire avec sagesse, mais de donner son cœur au vin? » Et sa chair au vin. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de... Salomon était l'homme le plus sage que la terre a porté, mais dans sa sagesse, et c'est ce qu'on va voir ce matin, la fin du chapitre 1, « Avec beaucoup de sagesse vient beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Donc, dans cette recherche-là, on a besoin de tout essayer. Et là, quand j'essaye tout, puis là, je suis riche, et là, Ah, il y a une nouvelle affaire qui vient de sortir, je vais l'essayer. Ah, il y a ça, je vais l'essayer. Et là, on court partout. Et augmenter notre savoir dans tout ça, augmenter notre science, c'est probablement plus on a essayé de choses, plus on a mal. Parce qu'à chaque fois, on est déçu jusqu'à ce qu'on arrive à la réalité que sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. Et c'est l'objectif que j'aimerais regarder avec vous. Il passe à travers tout ce qui peut vraiment nous toucher. Donc, on va regarder les divisions du livre ici. On a premièrement une introduction qu'on va regarder aujourd'hui avec le premier poème. Et ensuite, les chapitres 1 à 5, c'est des recherches. Là, Salomon, il va nous dire, j'ai essayé ça, ça donne ça. J'ai essayé ça, ça donne ça. J'ai essayé ça, voici ce que ça donne. Ensuite, les chapitres 6 à 11, et là, il réalise. Donc là, il réfléchit à tout ce qu'il a essayé. Et là, il parle de justice, il parle de plusieurs choses. Il parle aussi de la fatalité de la vie. Et finalement, il nous donne sa conclusion. Voici, après toutes mes recherches, voici ma conclusion. Donc, c'est vraiment un livre, l'Ecclésiaste, qu'on va regarder. C'est un livre sur la perplexité et le sens du bonheur humain. La perplexité de la vie, c'est dur à dire, et le sens du bonheur humain. Aussi, on va regarder ensemble des évidences concernant le travail, la sagesse, la vie humaine, la justice, les biens matériels, ainsi que la religion traditionnelle. À travers notre étude, j'espère qu'ensemble, on va être capable de dire, le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle qu'il n'y a pas de vraie foi en Dieu sans un regard lucide et objectif de la condition humaine. On a ici une sorte d'investigation sur ce qui se passe sur la terre. L'impossibilité de connaître les plans de l'Éternel pour le monde, l'insécurité causée par la menace constante de la mort qui peut survenir à l'improviste et la précarité des précarités, tout est précaire. On n'est pas sûr de rien. La condition humaine, Dieu l'a attachée à l'incertitude. Qui sait, peut-être que je vais faire une crise du cœur en ce moment pendant que je vous parle. Et Dieu le sait. Et là, on est appelé à vraiment faire confiance à Dieu dans un monde où il n'y a pas de certitude. Et c'est là que l'Ecclésiaste devient intéressant. Parce qu'on va passer au travers et on va regarder comment Dieu est la seule certitude. Donc, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans le livre de l'Ecclésiaste, maintenant que vous avez, j'espère, une meilleure idée de qui était Salomon. Et pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, vous pouvez lire 1 Roi, les 11 premiers chapitres. Maintenant, on va lire Je vous invite à tourner dans Ecclésiaste. On va lire l'Ecclésiaste 1 et on va lire les 11 premiers versets. Ça va comme suit. « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va et une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire d'après le lieu d'où il se lève, et il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Voici, ceci est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas un souvenir chez ceux qui vivront plus tard. » Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à la recherche et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour la lecture de ta parole ce matin. Ce texte nous rappelle que toute chose est vain, que notre monde, Seigneur, tourne et tourne et tourne, et sans toi, on n'aurait aucun espoir. Sans ta personne, sans ton œuvre, Seigneur Jésus, on serait encore à se questionner, comme on va voir dans ce livre. Parle-nous à travers ce livre, utilise-moi, donne-moi les bonnes paroles. Seigneur Dieu, sanctifie ta parole dans nos cœurs, cache-les afin qu'on puisse te faire confiance. Bénis-nous ensemble et bénis cette parole dans nos cœurs. On te prie toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Donc, premier point que j'aimerais discuter avec vous, c'est sa phrase d'ouverture. « Vanité des vanités, tout est vanité. » Donc, selon le Larousse, la vanité est la satisfaction de soi-même accompagnée du sentiment d'orgueil. La vanité est caractère de ce qui est vain. Oui, merci. Futile, vide de sens. Le défaut de quelqu'un qui étale sa satisfaction de soi-même. La recherche des choses sans Dieu. Et donc, vanité des vanités, tout est vanité. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire « tout est vanité » ? Ça veut dire quoi, tout? Pour ceux qui ont déjà été avec Mark Strout, il disait la chose suivante, il disait « Tout veut dire tout et c'est tout ce que tout veut dire. » Vous avez compris? Tout veut dire tout et c'est tout ce que tout veut dire. J'aime ça. Et donc, dans cette idée-là de vie, la vanité... La satisfaction de soi-même avec un sentiment d'orgueil ou un caractère de quelque chose qui est vide de sens, qui est futile ou quelqu'un qui est satisfait de lui-même, il est vain. Hein, on dit que quelqu'un il est vain, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vanité. Hein, il met les choses en face, il se promène avec sa chaîne en or, sa Mercedes, puis il n'y a pas de clignotant dessus. Mais c'est la réalité de ce qui est comme passager. Et une image que j'aime utiliser pour parler de la vanité, c'est comme si j'étais un artiste et que je faisais des bulles de savon. OK? Et quand je fais une bulle de savon, je m'applique. Ma bulle de savon, elle est vraiment belle. Et je la fais grosse. Je suis vraiment hot. OK? Et là, je la regarde. Elle est belle. Et là, tout le monde fait « Wow, ta bulle de savon, Marco! » Et la vanité, c'est que à la seconde où je touche la bulle, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un effet sonore. Oui, il y en a qui s'en souviennent. Et donc, comme j'ai fait une belle bulle de savon une première fois et que je suis arrivé pour y toucher et que il n'y en a plus, qu'est-ce que je vais faire dans mon cœur humain? Je vais être déçu. Et donc, je vais en faire une autre, plus grosse, plus belle, plus de savon. Puis là, je vais m'assurer qu'elle est dans la bonne angle de la lumière pour que vous fassiez comme « wow ». Et qu'est-ce qui va arriver quand je vais toucher à la bulle de savon? Vous l'avez? Il n'y en a plus. Et c'est cette idée de vanité. À chaque fois que quelque chose vient et je pense que je suis satisfait, que j'ai finalement atteint quelque chose, je suis déçu. C'est beau, ça a l'air efficace, c'est impressionnant. Ma bulle de savon est plus grosse que ta bulle de savon. Ma bulle de savon est plus lumineuse. Mais quand j'arrive à y toucher, toutes les bulles de savon finissent par péter. Et c'est cette image-là qui est très, très prenante pour moi. Tout est une bulle de savon. Et quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une bulle de savon. Que quand je vais y toucher, elle va péter. Et il nous exprime cette réalité-là, et là, il inclut toute chose. Et on va en faire un premier. Il fait un premier poème. Il nous parle des générations, le soleil, le vent. Et il nous amène à réaliser une chose, c'est que dans son premier poème, il nous apprend ceci. Le monde est cyclique. On fonctionne par cycle. Pour tous ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Qu'est-ce qu'un cycle? C'est quelque chose qui a un commencement dans lequel on vit et qui a une fin et qui ensuite recommence. Un cycle. Un début, je vis dedans et il y a une fin. Et je sais qu'à la fin de mon cycle, c'en est un autre qui commence. Il y a quelque chose d'autre qui va commencer. Notre monde est cyclique. Le soleil se lève, je sais qu'il va passer la journée et il va se coucher. Et je sais que demain, il y a un autre cycle qui commence. Je sais aussi qu'il y a ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Hein? L'eau passe, la pluie tombe, la pluie va dans les rivières, s'en va, l'eau s'évapore et là, qu'est-ce qui arrive? Un cycle qui recommence et recommence. Et recommence. Et cette idée que le monde est cyclique, ça nous amène à réaliser une chose, c'est qu'on est des créatures de répétition. On est des créatures qui sont souvent en train de faire la même chose. Hein? On l'exprime souvent, et je vais en parler un petit peu plus loin, métro, boulot, dodo. On est cyclique. Un deuxième point qui nous sort ici, c'est « le monde est jamais satisfait. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail. L'œil ne se rassasit pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. » Donc, le monde n'est jamais satisfait. Et là, il donne des images qu'on comprend. Hein, personne n'a jamais... j'espère que personne n'a jamais vécu. Un moment donné, il se lève, là, un matin, tes yeux ne marchent plus. Juste parce que ça leur tentait plus. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, le monde n'est jamais satisfait. Et il parle ici de cette idée-là qu'il y a toujours quelque chose qui est en motion. Il y a toujours quelque chose qui s'en vient. Le monde ne sera jamais satisfait. Et le monde du péché en nous, malheureusement, n'est jamais satisfait. Hein? Dieu compare le péché en nous a une petite flamme. Et une flamme, tant que tu la nourris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brûle. Et si tu ne la contrôles pas, sachez qu'une petite braise peut faire brûler toute une forêt. Regardez dans l'Ouest canadien. On a de la belle fumée partout parce que il y a un petit incendie qui est parti et on a perdu le contrôle. C'est l'image, le monde n'est jamais satisfait. Le feu ne se lasse pas de brûler tant que je lui donne quelque chose, il va brûler. Le péché en nous ne se lasse pas de détruire parce que tant qu'il va avoir quelque chose à brûler, il va le brûler. Et le troisième point, on a la mémoire courte. Vous savez, une des définitions de la folie, c'est de répéter la même chose en espérant un résultat différent. Et combien de personnes, chrétiens ou non, répètent la même chose, font les mêmes étapes, jour après jour, en espérant changer leur vie, être plus heureux qu'hier. Je vais faire exactement la même chose, mais ça va changer le résultat. Ou je vais faire le même cycle et espérer que Dieu, miraculeusement, parce que je suis une bonne personne, change quelque chose. Non, on ne fait pas ça, hein? Non, personne ne fait ça. Et on a la mémoire courte. Et je m'amuse des fois à poser la question, et là, vous êtes un peu plus vieux qu'au camp, donc ça va peut-être marcher. Qui ici connaît le nom de ses grands-parents? Qui connaît le nom de ses arrière-grands-parents? Si vous en connaissez un, vous êtes correct. Arrière-grands-parents. Moi, je connais le nom de un de mes arrière-grands-parents parce que j'ai une mémoire courte. Qui avait la main levée? Combien de personnes? Yves, vous êtes quand même bon. Arrière-arrière-grands-parents? Ah, vous êtes bon. Qui? Y en a-t-il qui ont triché, là? Mais si vous connaissez vos arrière-arrière-grands-parents, vous êtes au-dessus de la moyenne. Et j'ai une question pour vous. Ça fait combien de temps, ça? C'est combien de temps, vos arrière-arrière-grands-parents? Il peut y avoir plein de réponses différentes. Mais vos arrière-arrière-grands-parents ont probablement vécu dans les années 1900, début 1900. C'est une centaine d'années, là. 1800, il y en a qui sont plus vieux que nous autres. Oui. Je ne voulais pas vous mettre devant, là. Mais vous savez, on a la mémoire courte. Et si je vis ma vie en espérant être que les gens vont se souvenir de moi, ma propre famille, dans 80 ans, ne se souviendra probablement pas de moi, à quel point j'étais beau. Ils ne s'en souviendront pas. Hey, un gars s'essaye. Mais ils ne s'en souviendront pas. Et si je vis ma vie avec le but de qu'ils se souviennent de moi, on a la mémoire courte juste pour nos familles. Et les gens qu'on se souvient, on a une mémoire qui est probablement un peu à l'eau de rose, hein, un peu romancée, de plusieurs des personnes qu'on se souvient. Et c'est un peu cette réalité-là. On a la mémoire courte, on ne se souvient pas des choses exactement comme elles sont. On ne se souvient pas, on ne laissera pas sa marque, sauf en étant extrêmement chanceux. Et donc, vanité des vanités, tout est vanité. Ne vivons pas nos vies pour ça. Et donc, j'aimerais regarder avec vous un point que je trouve intéressant, c'est que le monde est cyclique. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui pensent qu'on vit dans un éternel recommencement. Et là, je vous explique ça parce que il y en a peut-être qui s'amusent à faire de l'apologétique des fois, qui discutent avec des non-croyants. Et il y a cette idée-là qui vient que le Big Bang, vous savez c'est quoi le Big Bang? Genèse chapitre 1. Dieu dit que la lumière soit, puis bang, la lumière fut. Mais c'est pas ça que le monde croit. Dans l'idée du Big Bang, on a cette idée-là qu'à partir de rien ou je sais pas quoi, toute la poussière s'est contractée avec la pression, la chaleur, puis les bonnes choses. Et là, boum, ça a explosé. Et là, l'univers est en constante expansion. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir avec le télescope Hubble que l'univers est en constante expansion. Des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres, on voit que ça grandit encore. C'est vraiment génial. Mais il y a une nouvelle idée, et savez-vous, la parole n'est pas contre ça. Hein? La parole de Dieu nous dit que l'Éternel étend les cieux et nous dit jamais qu'il y a arrêté. Donc, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais aussi, on voit une idée que, cette nouvelle idée que c'est des cycles. Donc, la nouvelle idéologie, c'est que l'univers est en expansion, constante expansion, et qu'un jour, l'univers va tellement grandir qu'elle va dépasser son propre centre de gravité. Et en anglais, ça va « collapsed on itself ». Je ne sais pas comment ça veut dire en français, je suis désolé. Va imploser sur elle-même pour redevenir concentré, le petit point dans le milieu, et que là, ça va réexploser. C'est cyclique. C'est un cycle. Et on peut dire n'importe quoi parce que ça prend des milliards et des milliards d'années. ça vient avec ce... En fait, c'est une sophistication... C'est sophistiqué. Hein? Pour dire... Avez-vous déjà entendu l'idée des causes à effet ou l'argument des tortues? Non? Je vais vous le dire. L'argument des tortues, c'est une idée qui sort un peu de l'hindouisme, qui croit que le monde sur lequel on vit est sur le dos d'une tortue. Une tortue géante qui est exceptionnelle, qui, dans le fond, elle, on vit sur son dos. Et là, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qu'il y a la tortue? Bien, la tortue, elle vit sur une autre tortue, qui, elle aussi, a un monde sur elle. Mais là, cette tortue-là, elle aussi, elle vit sur une autre tortue. Et puis là, l'argument en anglais, c'est « turtles all the way down », les tortues jusqu'au bout. On ne peut pas savoir, c'est une répétition, c'est un cycle. On est tous sur une tortue, on est tous quelque chose de quelque chose. Cause à effet, toute chose doit avoir une cause. Si je ne peux pas voir la cause directement, bien, je vais en inventer une. Il ne peut pas avoir quelque chose sans cause. C'est un argument que plusieurs scientifiques vont utiliser pour nier l'existence de Dieu. Mais moi, ici, j'aime ça arriver à cet argument-là parce que quelqu'un qui dit que Dieu ne peut pas exister doit croire « turtles all the way down ». Okay? Quelqu'un qui ne veut pas croire que Dieu existe va toujours trouver une cause pour la cause, pour la cause, pour la cause. Et là, ils vont vous poser la question, « Mais qui a causé Dieu? » Qui a causé Dieu, gang? Ah, qu'est-ce qu'on répond à ça? On répond la même chose. Dieu est éternel. Il est avant la création de la matière, du temps et de tout ce qu'on peut vivre. Dieu est au-delà. Il est plus grand. Dieu ne vit pas selon le temps. Dieu vit dans ce qu'on appelle l'éternel présent. OK? Et ça a un impact énorme sur notre salut, sur notre réalité. C'est que Dieu n'est pas pris comme nous dans un monde qui est linéaire. Dieu est hors du temps. Il est hors de la matière. Il est plus grand. Il est plus puissant. Il est infiniment plus grand. Il est la cause sans cause. Il est celui qui est. Pas qui était, pas qui sera, celui qui est. Et donc, quand on regarde le monde, on doit accepter la réalité qu'il y a plus fort que nous. Et celui qui croit que notre univers est radicalement moral, ce qui veut dire que quelqu'un ou quelque chose a choisi ce qui est bien et mal, doit considérer que l'ordre moral repose soit sur une moralité absolue et ultime, ou sur une série de peut-être qui va aller jusqu'à l'infini. Comprenez-vous? Celui qui croit que cet univers est radicalement moral doit considérer que l'ordre moral repose soit sur une norme morale absolue et ultime ou sur une série de peut-être qui va s'étirer à l'infini. Et c'est là la réalité. Est-ce que notre monde est moral? On n'est tous pas sûrs. Hein? Ultimement, chaque être humain a une moralité en lui. Je pense que quelque chose est bien, je pense que d'autres choses sont mal. Hein? Vous êtes tous capables de me dire que botter un bébé chiot, c'est mal. Mais peut-être que dans votre pays, c'est super dangereux, ils ont plein de maladies, puis c'est normal de faire ça. L'exemple est banal. On peut aller plus loin. Peut-être qu'ici, au Québec, au Canada, c'est mal. C'est mal de tuer un chrétien. C'est mal de tuer quelqu'un tout court. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. C'est bien vu de tuer un chrétien. C'est même encouragé, parce que c'est une nuisance. Amen. Mais vous comprenez, on vit tous avec un compas moral qui est le nôtre. Et si notre monde est ultimement moral, il y a du bon et du mauvais, soit on vit en essai-erreur et qu'on va faire des essais-erreurs jusqu'au bout, ou il y a une morale ultime. Il y a quelqu'un qui définit ce qui est bien et mal. Donc, on vit dans un monde cyclique. Il y a un éternel recommencement. Soit le monde est cyclique et le recommencement est éternel, donc le Big Bang, il s'étire, il revient, il s'étire, il revient, et tout est vain, rien n'a de sens, tout est fini, final. Il y a une fatalité au monde que, peu importe ce que je fais, ce n'est pas grave. Et vous pouvez demander aux gens, si vous croyez à la théorie de l'évolution, pourquoi est-ce qu'on ne tue pas tout le monde qui est malade, puis etc.? Parce que c'est ça que la théorie de l'évolution nous dirait de faire. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est moralement inacceptable. Qui a décidé ça? Pas la science. Voyez où on s'en va? On peut danser longtemps avec ça. Mais on est tous pris dans un éternel recommencement et on vit dans un monde métro-boulot-dodo où on endort toutes ces questions-là en étant le plus actif possible. Et là, on se crée de la vanité, de la vanité, de la vanité. On trouve quelque chose, on travaille pour quelque chose. Et une fois que je l'ai atteint, bien, je me trouvais un autre but parce que ma vie n'a pas de but si je n'ai pas de but. Et le cœur humain crée toujours les mêmes tentations. Regardez au verset 9 du chapitre 1. « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » On a toujours, le cœur humain se crée des idoles. Depuis Genèse chapitre 3, juste depuis la chute, Adam et Ève, leurs fils, les fils de leurs fils, tout le monde se crée des idoles. Tout le monde. On a toujours les mêmes tentations. Caïn était jaloux d'Abel, il a tué son frère. Quelqu'un voulait la femme de quelqu'un d'autre, il a fait des affaires. Et même dans les familles, dans toutes les choses, toutes, on est des usines à idoles. Et afin de sortir de cette idée-là, on doit réaliser que le monde est linéaire. Ça veut dire quoi, linéaire? Le monde a un début, on vit dans l'histoire et il va avoir une fin. Le monde est linéaire. On apprend que Dieu a créé le monde, un début. Avant que Dieu ait créé le monde, on est dans l'éternel passé, il n'y a pas de temps. Au commencement, avant le commencement, Dieu. Au commencement, Dieu crée. Il y a un début. On n'est pas dans un cycle que ça arrive, ça... Comprenez? On n'est pas dans un cycle. Il y a un début. Qu'est-ce qu'il y a avant le début? Dieu. Comment je fais pour être sûr? Je ne le sais pas. La Bible me le dit, et je dois le croire. Si je veux croire que le monde est moral, que Dieu existe, je dois me fier à la parole de Dieu. Sachez qu'on ne peut pas prouver que Dieu existe, comme on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Mais on peut vivre en sachant que si Dieu existe et qu'il nous a communiqué, la parole de Dieu est l'ultime outil. Il n'y a rien de semblable à la parole de Dieu. On apprend aussi qu'il y a la finalité de la vie. Hébreux 9, 27, il dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et ça vient avec deux réalités. Il y a une fin. Dans Matthieu 24, Jésus nous dit, soyez prêts car vous ne savez pas quand le voleur vient. Vous ne savez pas quand votre vie va finir. On peut mourir là, demain, dans 24 heures, dans 10 ans, dans 100 ans. On ne sait pas quand ça va arriver. On sait aussi qu'il y a un jugement. Apocalypse 20, devant le grand trône blanc, Dieu va amener toutes les nations devant lui afin de juger selon leurs œuvres. Au grand trône blanc, tu ne veux pas être là. Parce que Dieu va te juger selon tes œuvres. Et il va regarder, et l'ultime compas moral, qui est Dieu, va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? J'aimerais pas me retrouver devant Dieu avec mes actions. parce que ce serait vraiment pas cool. Ce serait très difficile d'aller devant Dieu avec mes péchés. Dieu dit qu'il va prendre que toutes nos actions, toutes nos bonnes ou mauvaises, sont écrites dans le livre de vie et qu'il va nous juger selon ce livre-là, excepté si on a pris son salut. Sachez qu'il n'y a aucun autre nom par lequel vous puissiez être sauvés, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il y a un seul salut. Nous vivons dans un monde qui est linéaire. Il y a un début, c'est Dieu. Et il y a une fin, Dieu. Entre les deux, il y a notre vie, qui est un cadeau de Dieu, qui est une grâce de Dieu. Dieu se plaît à bénir les êtres humains. Et là, il faut réaliser, on croit que Dieu nous aime, que Dieu est bon, que Dieu est infini. Sachez que Dieu est bon et qu'il nous aime, qu'on soit un bon gars ou un mauvais gars. Dieu prend soin de nous. Oui, Dieu condamne le pécheur, condamne le péché, et Dieu punit. Mais il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Et dans le livre d'Ecclésiaste, on va regarder ensemble, Salomon crie à l'injustice. Il dit, j'ai vu des choses, j'ai vu des justes qui sont assis dans la poussière, et j'ai vu des méchants, des tueurs qui sont assis dans des villas. Et là, il dit, quand je regarde ça, il dit même, le cœur de l'homme est excité à la violence quand il voit l'injustice. On se dit, lui, là, pas clair. Et Dieu n'est pas étranger à ces sentiments-là. Dieu n'est pas étranger à ces réalités-là. Mais Dieu nous assure, ultimement, il va y avoir un jugement. Et ta vie est ancrée en ta relation avec Dieu. Si Dieu a tout créé, qu'il s'occupe de toi, qu'il est intéressé à nos vies, et la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est incarné pour venir vivre une vie avec nous. Il y a plein de gens qui disent, ah, si Dieu venait sur la terre, je croirais. D'où il est venu? Ah, mais pas Jésus, ça compte pas. Vous comprenez? Dieu est un Dieu intéressé à ta vie. Dieu est un Dieu qui a fait tout ce qui est humainement et divinement possible de faire. Dieu a créé le monde. Dieu a permis à la mort d'entrer afin que nous ne soyons pas éternellement dans nos péchés, mais que Jésus puisse venir, mourir et ressusciter pour nous. Sans mort, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans la mort de Jésus, on est tous pognés, on est tous finis. Il n'y a aucun espoir. Vanité des vanités, tout est vanité. Sans Jésus, on n'a aucun espoir. Mais en Jésus, on a tout l'espoir possible. On a notre salut. On a la connexion avec Dieu. On a Dieu qui s'est fait chair, qui a traversé les cieux pour prendre un corps, qui s'est humilié et qui a pris sur lui nos fautes, qui a accepté l'ignominie de la croix, qui a été battu, qui a pardonné tous ceux qui l'ont battu sans jamais pécher. Dieu a fait tout ça afin que en 2025, on puisse être assis ici et le louer et l'adorer. Et que chacun d'entre nous puisse expérimenter son pardon dans nos vies. Qui ici a eu une semaine parfaite? Non? Merci, Seigneur Jésus. Right? Sans Jésus, on n'a aucun espoir. En Jésus, en Christ, on a tout notre espoir. Et sachez que ce n'est pas un décret humain, c'est Dieu qui nous dit « J'ai fait ça ». Ce n'est pas par la sagesse humaine que Dieu nous sauve, c'est par la folie de la prédication. C'est qu'en regardant tout le monde, les cycles de nos vies, Dieu a détruit tout ça, tous ces cycles-là en envoyant Jésus qui, lui, vivait la vie parfaite, qui, lui, il n'était pas pogné dans des cycles. Il s'arrêtait, il prenait le temps de discuter avec une femme samaritaine pécheresse qui avait 5 maris puis qui vivait tout croche. Il prenait le temps de s'arrêter pour parler à des aveugles. Il prenait le temps de guérir des gens dans le temple que tout le monde regardait comme si c'était des moins que rien. Jésus, il s'arrêtait, il prenait le temps. Il n'était pas soumis au cycle qu'on connaît. il y avait une mission, nous sauver de nous-mêmes, nous sauver de nos idoles. Alors, on doit savoir que ma vision du monde, elle va être teintée par le péché, que personnellement, j'aime et je recherche la vanité. On est tous pareils. L'être humain est à la base un adorateur. Soit on adore Dieu ou on trouve autre chose. Personne ne peut dire qu'il n'est pas un adorateur. Parce qu'un adorateur, quand ça n'a rien à adorer, ça se crée quelque chose à adorer. Ça peut être notre famille, notre femme, nos enfants, notre travail, notre char, le char du voisin, name it. On se trouve quelque chose à adorer. Et sachez que quand on parle de l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, souvent, là, on pourrait facilement tomber dans le même piège. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est rechercher une sécurité, une identité dans quelque chose qui n'est pas Dieu. Trouver mon identité ou ma sécurité dans quelque chose qui n'est pas Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai 50 000 dans mon compte. J'ai pas besoin de Dieu. J'ai un bon travail. J'ai une bonne assurance. Je suis pas malade. J'ai pas besoin de Dieu parce que... Deuxième point, c'est que, à la base, nous adorons tous nous-mêmes. Nous nous adorons tous et nous voulons être Dieu dans notre vie. Depuis Genèse 3, chacun d'entre nous, on veut être Dieu. On veut bosser, on veut prendre les décisions. C'est pas long, là. Qui a un enfant de 2 ans ici déjà? Qui est conscient que son enfant de 2 ans veut être Dieu? Vous pouvez le voir, ne soyez pas gênés. J'en ai 3, puis les 3, ils sont pareils. Je suis sûr que ma mère, elle vous dirait la même chose. Je voulais être Dieu. Et on s'adore tous nous-mêmes, ce qui veut dire que je cherche ma sécurité, mon confort, mon identité dans les choses que moi, j'aime. Et c'est l'autre point ici, nous aimons tous le péché et le péché nous le rend bien. C'est malheureux, mais chacun d'entre nous, on est bien dans nos péchés. Sans Dieu, l'homme est bien dans son péché. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, peut-être que certains de tes péchés ne te dérangent pas du tout. Peut-être que certains de tes péchés sont même normalisés. Chrétien ou pas, sans Dieu, on va tous rester dans nos péchés. Et on a besoin de Dieu pour nous sauver, premièrement, de nous-mêmes. J'ai besoin de Dieu pour me sauver de moi-même. Et l'apôtre Paul l'exprime bien dans Romains 7. Il dit, « Je fais les choses que je ne veux pas. Je ne fais pas les choses que je veux. » Il dit, « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et là, il y a cette idée qu'on va regarder la prochaine fois. Il dit, « C'est pas moi qui le fais, c'est le péché. » Et là, il y a une théologie qui est sortie de ça, mes amis, là. C'est terrible, mais il y a cette idée qu'on a besoin, j'ai besoin de Dieu pour me sauver de moi. Je ne suis pas dans un monde cyclique qui va être un éternel recommencement. Je suis dans un monde linéaire. Un jour, il va avoir une fin. Je vais rencontrer Dieu. Je vais avoir besoin de suivre ses standards. Donc, j'inviterai l'équipe de louanges. On va prier. Seigneur Dieu, ce matin, on veut te remercier pour... ce livre de l'Ecclésiaste qui nous rappelle ta sagesse, qui nous parle, Seigneur, de toute cette idée qu'on a besoin de toi, qu'on vit dans un monde cyclique qui parfois nous amène à oublier, Seigneur, ta grandeur, à oublier qu'il y a une fin. Seigneur, on a besoin que tu nous rappelles à quel point tu es au-delà de tout ce qu'on peut penser ou croire. On a besoin que tu nous rappelles, Seigneur, que sans toi, on va se perdre dans nos péchés. Que sans ton Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous montre, qui nous parle, on ne les verrait pas. On ne serait pas capable de voir nos péchés et on ne serait pas capable d'aller à toi. Seigneur Dieu, aide chacun d'entre nous à aller au pied de ton Fils, aller à sa croix, Seigneur. Aller demander la paix, l'amour qu'il veut nous donner. Aller confesser nos péchés. Aller chercher ta face. Seigneur Dieu, merci pour ton Fils qui nous a permis, Seigneur, d'avoir accès à un plein pardon. Merci pour nos vies. Et maintenant, Seigneur, sépare-nous avec ta bénédiction. Aide-nous à appliquer ces choses dans nos vies, à chercher ta face, puis à ne pas nous perdre, Seigneur, dans ce qui est vanité. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni ce matin. Et ces choses, on les prie pour ta gloire. Amen.